Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Retrouvez tous nos projets sur notre site en ligne, mariedenazareth.com. Profitez de l'été pour lire ce que nous vous proposons dans notre librairie en ligne. Vous y trouverez beaucoup de choses intéressantes. L'été est propice à la prière, plongez-y de tout votre cœur et par exemple, découvrez nos neuvaines. Cette semaine, nous évoquerons le péché avec Justina. Bonjour Justina.
Bonjour.
Toujours fidèlement avec Patrick Sbalchiero. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Historien, journaliste et auteur de nombreux ouvrages, nous parlerons lors de cette émission et de la prochaine des stigmates. Alors Justina, le péché, est-ce une maladie, un crime ?
Oui, je suis là justement pour en parler et dire que le péché est une maladie et pas un crime. Je reconnais que j'aime pas ce sujet, mais il faut bien passer par là, et surtout qu'il est souvent source de confusion, et soit fait passer les personnes croyantes pour des obsédés d'interdits, soit les rend réellement obsédés par les interdits, la culpabilité et la névrose religieuse. Combien de fois le clergé m'a fait part des questions des fidèles ou des néophytes, combien de fois moi-même j'ai observé ce questionnement, est-ce que c'est péché de, et là vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, entre dormir de la nuit du vendredi au samedi les pieds en direction vers le nord ou poser le cierge avec la main gauche. Dans les questions un poil plus sérieuses, on parle des questions de nourriture, de lecture, de cinéma, de musique. Récemment, j'ai découvert que certains condamnent le fait d'écouter, par exemple, de la musique dite mondaine. Et d'autres sont prêts à envoyer en enfer tous ceux qui n'écoutent pas que des louanges. Pardonnez-moi, mais je préfère mille fois écouter la flûte enchantée de Mozart, même si ce n'est point de la musique sacrée et que Mozart était franc-maçon, que d'écouter un rappeur dit chrétien avec des paroles simplistes et un arrangement musical primitif et m'en vanter car ça parle de Jesus. Non, mais on respecte plus ni le libre arbitre, ni les goûts de chacun. On tente de créer une charia chrétienne avec péché permis, c'est comme vrai. Le haram halal dans l'islam. Bon, les musulmans font ce qu'ils veulent, ça les regarde, mais nous, on est chrétiens et nous n'avons pas besoin d'emprunter ce genre de droit religieux. En toute situation désastreuse, vient du simple fait que nous percevons le péché comme un crime répertorié dans un code pénal. Une petite touche d'humour pour illustrer, quand j'étais étudiante à Saint-Serge, notre secrétaire, une femme adorable, a accroché une liste de disciplines de l'Institut sous le prisme de cette névrose du péché. Bon, c'était humoristique. Nous sommes tous pécheurs, théologie dogmatique. Nous sommes tous pécheurs car, théologie morale. Nous sommes tous pécheurs mais différemment, théologie comparative. Nous sommes tous pécheurs depuis que, l'étude de l'Ancien Testament. Nous sommes tous pécheurs malgré que, l'étude du Nouveau Testament. Nous sommes tous pécheurs donc repentissez-vous, homilétique. Nous sommes tous pécheurs, il suffit de regarder l'histoire de l'Église. Tous sont pécheurs sauf histoire de votre obédience. Nous sommes tous pécheurs, même si cela ne se voit pas, iconologie. Nous sommes tous pécheurs, mais il faut bien survivre, conception sociale. Nous sommes tous pécheurs, chantons donc à propos de cela, science liturgique.
C'est génial. Bravo.
Bon, blague à part, et sans reprendre tout ce que j'ai déjà dit lors de notre émission sur la chute d'Adam, la chute de l'homme, c'est quand même l'auto-imputation de l'humain de Dieu. L'humain a été créé bon, Dieu est bon par définition. Qu'est-ce qu'est donc le mal ? Le problème se trouve dans les distances que je peux prendre avec Dieu. En grec, pour désigner le péché, on utilise le mot amartia, ce qui signifie littéralement un raté de cible. Le mal, le péché, c'est quand une bonne intention ou un besoin de ma nature a été accompli en ratant la cible. Le mal est donc une perversion, une absence de bien, mais n'a pas d'ontologie propre car Dieu n'a pas créé le mal. Donc, en exemple, si admettons j'ai faim, j'ai plusieurs options pour combler cette nécessité, qui est corporelle et tout à fait normale. La question est comment je vais la combler. Est-ce que j'irai me chercher un sandwich ? Est-ce que je vais me préparer un dîner ? Ou bien j'irai au restaurant et je partirai sans régler l'addition ? Avoir faim n'est pas un mal, c'est une mauvaise réalisation de ce besoin qui peut me détacher encore plus de Dieu et ainsi aggraver ma situation. Il en est de même pour toute autre chose. Je trouve donc, d'une part, honteux que nous réfléchissons à notre vie spirituelle de manière primitive, visiblement en s'imaginant un méchant barbu dans les cieux qui cherche à nous envoyer en enfer pour un moindre défaut. C'est avant tout insultant vis-à-vis de Dieu. Et est-ce que je veux dire que par cela que tout est permis ? Non, je reprends les paroles de l'apôtre Paul, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas bon. Vous ne mangerez pas les produits qui provoquent des allergies, vous ne mangerez pas les aliments que vous ne digérerez pas. Oui, et vous savez très bien que c'est pour votre propre bien. Et si vous ne mangez pas les bananes car ça vous gratte après, ce n'est pas parce que vous avez peur de finir en enfer, mais vous connaissez les conséquences probables. Et là, ce qui est bon pour vous est peut-être mortel pour votre voisin. Nous avons tous des maladies différentes et nous pouvons avoir des ordonnances différentes. Ne jugez pas votre voisin s'il n'a pas la même maladie ni le même traitement. Autrement dit, ne jugez pas votre voisin s'il ne pêche pas comme vous. Je compare souvent le péché à une maladie, car dans la théologie ascétique, le péché est perçu comme une maladie. L'Église comme un hôpital et le Christ comme un médecin. Donc, comme disait Saint-Silouane, gardez votre pensée en enfer et ne vous découragez pas. Donc, j'ai deux nouvelles, une mauvaise et une bonne.
Alors, on commence par quoi ?
La mauvaise. Okay, la mauvaise, c'est que nous sommes tous gravement malades. La bonne est que c'est Dieu qui est le médecin traitant et il veut a priori sauver nos vies. Et n'importe quel autre médecin vous dirait que faire une fixette névrosée sur sa propre maladie n'a jamais aidé à guérir.
Merci beaucoup, Justina. Et puis, bon été, puisque la prochaine émission sera une émission spéciale sans vous, hélas. Mais nous nous retrouverons pour une petite visite aux alentours du 15 août avec Catherine Negovanovic.
Oui.
En effet, cet été, nous proposerons des émissions les meilleures de l'année en rediffusion. Et nous nous retrouverons donc en septembre avec de nouveaux sujets.
Oui.
Volontiers, Justina.
À septembre.
Merci beaucoup. Alors, à présent, écoutons « O Clémence Maria », chant interprété par des frères et sœurs apostoliques de Saint-Jean des Prieurés de Riaumont.
Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, Patrick Spalchiero, merci donc de venir nous parler cette semaine des stigmates.
Merci à vous.
Alors, qu'est-ce que c'est les stigmates ? Un stigmate, une stigmate ? Parce qu'on dit toujours les stigmates.
Voilà, les stigmates. Les stigmates sont une apparition sur le corps d'une femme, d'un homme, des plaies de la passion du Christ. Alors, aux mains, aux deux mains, aux pieds, à la tête, qui est la blessure de la couronne d'épines,
oui.
Au côté, côté du cœur,
le flanc.
Le fameux coup de lance, bien sûr. Et puis, parfois, plus rarement, un stigmate, une blessure sur l'épaule, qui est celle du portement de croix. C'est assez rare dans la littérature mystique, mais ça existe. Voilà. Donc, les principales blessures sont celles des mains, des pieds et de la tête, du front, de la couronne d'épines.
Alors, vous parlez de blessures, mais il me semble qu'il y a des stigmates invisibles.
Alors, il existe, voilà, des stigmates invisibles qui, par définition, s'ils sont invisibles, eh bien, restent très difficiles à décrire et à déterminer.
Mais les personnes souffrent.
Alors, les personnes souffrent, ouais. Épouvantablement, parfois.
Malgré tout.
Aux mêmes endroits. Alors là, évidemment, toute une série d'hypothèses a pu être avancée. Les troubles psychosomatiques,
oui.
Voilà, etc. Des hallucinations, ce que vous voulez. Mais c'est un cas, hein, c'est un fait. Et ce qui est remarquable, c'est que même dans le cas de stigmates invisibles, les douleurs vont et viennent de manière tout à fait inattendue, hein, tout à fait, on pourrait presque dire à l'improviste. Et bien souvent... épouse le calendrier liturgique comme dans le cas des vrais stigmates, qu'on appelle visibles, figuratifs. Hein. Par exemple, eh bien, vous pouvez avoir des apparitions de stigmates invisibles, justement, sensation de grande souffrance, aux mains, aux pieds, etc. Le jeudi après-midi, le vendredi, ou alors pendant la semaine sainte,
oui.
Avec une disparition totale des troubles le dimanche. Hein, c'est souvent
incroyable.
Ce qui peut se passer. C'est incroyable. Sans intervention, sans prise de médicaments et autres traitements médicaux, hein, sans rien vraiment, sans aucune intervention humaine.
Voilà. Ou alors sur une plus longue durée, comme le Padre Pio.
Alors, évidemment, alors là, dans le cas de stigmates visibles, bien sûr, sur une très longue durée, puisque sa stigmatisation a duré 50 ans.
Mmh. Hein,
de 1918 à sa mort en 1968, les stigmates du Padre Pio sont restés visibles. C'est un cas exceptionnel. Il y en a d'autres qui durent des années. Hein, d'autres, plusieurs mois, c'est plus ponctuel. Et d'autres encore moins. Il y a parfois des apparitions de stigmates qui durent quelques semaines et puis tout disparaît. Souvent d'ailleurs, à la prière de la personne,
ah oui.
Qui prie Dieu de
lui retirer
cette grâce qu'elle juge bien souvent trop forte pour elle, etc. Et parfois le Seigneur répond quand même favorablement et donc là, tout disparaît.
D'accord. Alors, depuis quand est-ce que nous entendons parler de ce phénomène ? Il y a bien un premier stigmatisé ?
Alors oui, il y a un premier stigmatisé. Du moins, il y a un premier stigmatisé selon les sources historiques dont nous disposons, et ouais. C'est Saint François d'Assise. Ouais. Saint François d'Assise qui, 2 ans et demi, peut-être 3 ans avant de mourir, hein, nous sommes en 1223, eh bien, reçoit les stigmates des pieds et des mains. C'est le premier... premier homme stigmatisé de l'histoire. Donc, nous n'en avons pas avant,
oui.
De sûr, hein, vraiment. Il y en a peut-être eu, du
oui.
Reste. Mais
on a pas
les historiens, on ne peut rien dire sur ce qui s'est passé avant lui. Et là, par contre, en revanche, nous avons des témoins, des récits, des actes officiels hein, qui mentionnent et qui prouvent l'existence des stigmates chez Saint-François d'Assise.
Ça a dû être quand même incroyable, parce que comme on n'en avait jamais entendu parler auparavant...
Bien sûr. On a même baptisé Saint François d'Assise l'autre Christ, Alter Christus, parce oui. Que avec des marques hein, dans les mains et dans les pieds comme cela, c'est bien sûr un choc pour l'entourage, ça a dû être un choc absolument incroyable. Même dans le cadre de cette Italie du XIIIe siècle, eh ben, bon voilà, c'est un phénomène qui surgit tellement d'une façon tellement... impensable, bien sûr que les. Alors, on dispose d'un certain nombre de sources, hein, bien sûr, et il est considéré, encore une fois, vous voyez, comme le premier stigmatisé. Et j'ajoute que saint François n'était pas prêtre.
C'est ce que j'allais dire. Oui.
Contrairement à ce que l'on pense parfois, il avait certainement reçu le diaconat. Il était certainement diacre,
oui.
Mais il n'était pas prêtre. Et donc, ce n'est pas le premier prêtre stigmatisé de l'histoire.
Et le premier prêtre.
Ce serait saint Padre Pio.
Est-ce qu'il y en a eu d'autres après?
Après Saint Padre Pio ?
Oui, prêtre.
Alors, à ma connaissance, là, je suis en difficulté pour vous répondre objectivement.
Oui.
Il me semble que non. Il me semble que non. Ce serait une information à vérifier. De toute manière, le nombre de stigmatisés dans l'histoire, de gens qui ont reçu... Alors, des évêques, n'en parlons pas, je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Mais de nombre de prêtres, s'il y en avait, ça serait extrêmement...
faible.
Ce serait un très faible. Hein, très, très faible. Non, la majorité des stigmatisés dans l'histoire sont des religieuses et des religieux.
Des femmes ?
Des femmes et des hommes. Et maintenant, depuis une bonne centaine d'années, un peu plus, des laïcs.
D'accord.
Des laïcs.
Ok.
Voilà. Comme par exemple en Italie, Sainte Gemma Galgani, hein, qui meurt au tout début du XXe siècle, ou d'autres, donc des femmes, des laïcs, Natuzza e Volo en Italie, qui
oui.
ont reçu...
Oui, alors on en parlera voilà, tout à l'heure, vous allez nous raconter. Alors, ces plaies, elles ont des évolutions cliniques, vous nous disiez, non naturelles, parce que j'imagine que les stigmatisés sont observés.
Scruter,
ouais.
analyser,
ouais.
Oui, bien sûr. Alors, on a noté dans la littérature médicale trois ou quatre paramètres qui font la différence avec des blessures,
oui.
on va dire traditionnelles, naturelles.
Oui, parce que quelqu'un peut s'amuser à se...
Bien sûr, il y a eu des cas, mais bien sûr, d'automutilation, il y a eu de nombreux cas. Le Padre Pio a été accusé de s'automutiler avec l'aide de produits corrosifs, par exemple.
Oui.
Bon, il y a toute une histoire derrière, mais... Alors, les plaies, les vrais stigmates, les vraies blessures ne s'infectent jamais. C'est déjà une première. Théoriquement, c'est lorsqu'une plaie profonde, et elles sont parfois très profondes, puisqu'il y a des mains qui sont transpercées de part et d'autre quand même. Ouais. Ce n'est pas une blessure superficielle. On peut s'attendre à ce qu'il y ait infection quand il n'y a pas de soin, aucun soin médical. Là, ce n'est pas le cas. Pendant 50 ans, le Padre Pio a eu ses mains ouvertes,
hein, ouais.
et elles ne se sont jamais infectées. Elles ne suppurent pas. Deuxième point, là aussi, mystère, tout de même, parce que c'est très étonnant, ouais. c'est très étonnant. Et alors, troisième chose, c'est encore plus extraordinaire, si j'ose dire, tous les observateurs ont noté que le sang qui s'écoule des blessures, eh bien, il s'écoule en une quantité bien supérieure au cas, évidemment, des blessures naturelles. Ou le cas où on perdait du sang. Là, il s'écoule de manière souvent... quasi continue, ou régulière, très régulière, sans que la santé du sujet en soit affectée. Donc voilà,
incroyable.
C'est incroyable. Et puis, quatrième point, elle s'ouvre ses blessures, mais elle se referme aussi sans aucune intervention médicale. Alors là, si vous avez une explication, faut me la donner, parce que moi, je n'en ai pas.
C'est quand même très étonnant.
Oui.
Mais alors, je vais poser une question un peu bizarre, mais c'est stigmatisé. On n'a pas essayé de leur mettre des pommades, des crèmes, des médicaments, des antidouleurs, des...
Si. La plupart du temps, avec respect, tout de même.
Oui.
Et puis, ces médicaments sont apparus sur le marché, si j'ose dire, à une date récente
oui.
également.
Oui.
Mais on a fait des tests. Le Padre Pio a été visité à partir des années... à partir de 1918-1919. Dès qu'il reçoit... Il est visité par un certain nombre de médecins, dont le fameux professeur Gemelli, hein,
oui.
qui est contre... D'ailleurs, il lance pas un anathème, mais il dit non, Padre Pio est un usurpateur, etc.
Ouais.
Enfin, bon, voilà, quoi, il s'est trompé. Gemelli s'est trompé. Et on essaye d'envelopper également les plaies dans des bandages,
alors,
des bandages
scellés. Alors, sur les photos de Padre Pio,
il porte des mitaines.
Ah, il n'a pas en plus des bandes autour.
Alors, il porte des mitaines, et au départ, c'est les gants, c'était les gants. Pourquoi porte-t-il ses gants ? Il a voulu au départ cacher
oui.
les plaies. Mais vous savez, bon, inévitablement, l'information a filtré, comme on dit,
oui.
et ça s'est répandu comme une traînée de poudre, bien sûr, à travers toute la péninsule italienne. Donc, oui, il y a eu des tests médicaux. On a, par exemple, cas de Padre Pio, bandé ses mains, on a scellé les bandages, avec et en contrôlant, et bien sûr, pendant quelques jours, comment les plaies allaient évoluer. Et bien, les plaies n'avaient pas évolué, c'était toujours des plaies béantes, et il n'y a eu besoin de il n'y a jamais eu besoin de lui donner le moindre remède médical pour que les choses changent. Non, au contraire, elles sont changées au moment où il est mort.
Est-ce que, par hasard, on a analysé le sang qui s'est coulé ?
Oui, c'est arrivé.
Et c'est le sang de...
Oui.
C'est... qui correspond à la personne qui reçoit les stigmates.
Oui.
Parce qu'on aurait pu penser phénomène extraordinaire pour phénomène extraordinaire, que ce soit le même sang qu'on retrouve sur
le sueur de Turin
ou à Lanciano.
Oui, non, alors non. D'après ce que les tests qui ont été faits, c'est bien le sang du sujet, mais en revanche, outre la quantité de sang émise, il y a parfois des parfums mystérieux. Et c'était le cas pour Padre Pio, d'une odeur du sang absolument incroyable.
Ah, une odeur de sang.
Ouais. Merveilleuse comme un parfum de fleur.
Bah attendez, le sang, ça ne sent pas comme un parfum de fleur.
Non, mais là, en l'occurrence, si. Le Padre Pio, a été très, très, très gâté, si j'ose dire, avec ce charisme des fragrances.
Oui.
Et le sang également, dégageait une odeur tout à fait, non seulement bonne, mais certains ont dit surnaturelle, céleste, etc.
C'est quand même curieux, c'est des mains du ciel.
Bien sûr. Ouais.
Parce que, alors, tous ceux qui ont eu ces stigmates ont dit oui.
Alors, non. Au départ. Non. Alors, la règle générale, si j'ose dire, est la suivante. Lorsque le Christ désigne un être humain pour porter ses blessures, ses souffrances, et donc participer, parce que c'est une forme de participation à sa passion, sur un mode extraordinaire, finalement. Il y a une espèce de temps de préparation, en général.
Spirituel,
mystique. L'apparition des stigmates n'est pas un jour de but en blanc. Il y a quand même, et là je crois que c'est une délicatesse du ciel, bien sûr, une sorte de préparation.
Oui, d'accord.
Peut-être d'apprentissage dans la relation à Jésus. Voyez. Par contre, en revanche, vous avez des gens qui disent « Non, c'est absolument insupportable qu'un pécheur tel que moi reçoive une grâce de cette sorte. S'il vous plaît, Jésus, enlevez ça parce que
c'est trop lourd. »
C'est trop lourd à porter, bien sûr. Et d'autres l'intègrent dans leur cheminement intérieur, en quelque sorte, dans leur vie chrétienne, finalement.
D'accord. Alors, comment se positionne l'Église? On est stigmatisé, on est saint?
Non, pas du tout. Ah non. Alors d'abord, l'Église n'a reconnu en tout et pour tout que deux cas de stigmatisation dans l'histoire. Saint François d'Assise.
Et Padre Pio.
Non.
Ah?
Non, mais ça ne veut pas dire qu'elle ait dénié, qu'elle ait critiqué l'authenticité. Non, mais j'entends valider par un acte officiel, en l'occurrence mentionné dans la bulle de canonisation, par exemple, le fait des stigmates.
Alors, qui est cette autre
personne? Donc, Catherine de Sienne.
Ah oui, d'accord.
Catherine de Sienne. Ce sont les deux seules personnes qui ont été reconnues sur ce point par l'Église. Mais l'un comme l'autre n'ont pas été canonisés à cause des stigmates, ou grâce aux stigmates. On ne canonise pas quelqu'un pour avoir vu la Vierge ou pour porter les stigmates. C'est un ensemble, c'est une dynamique bien sûr, mais ce n'est pas, on canonise quelqu'un pour vivre les valeurs évangéliques sur un mode exceptionnel, avec en plus, post-mortem, la grâce des miracles, vous voyez, comme signature, en quelque sorte, de la sainteté. Mais l'Église en tant que telle est très très prudente, là aussi, et à juste titre. Elle note l'existence, mais elle prend acte, mais elle place les stigmates, comme d'autres phénomènes mystiques, je dirais, un peu en périphérie. Vous voyez, ce n'est pas le cœur du sujet quelque part. Le cœur du sujet, c'est vraiment la relation entre Jésus et le sujet, entre Jésus et l'être humain. Voilà, l'évangile vécu au quotidien. Là, s'il y a en plus ce type de grâce extraordinaire, il faut en prendre, évidemment. L'Église en tient compte parce qu'il s'agit tout d'abord de discerner si les stigmates sont vrais ou faux. Et donc, évidemment, dans le cas où il y aurait supercherie ou tromperie, où on peut imaginer ce qu'on veut, le dossier serait assez vite classé.
Oui. Nous parlions de Catherine de Sienne. Quel stigmate a-t-elle reçu?
Alors, Catherine de Sienne a reçu les 5 stigmates.
Saint François d'Assise? Non.
Oui, comme Saint François d'Assise. Donc, les
paumes.
Les deux paumes des mains, les pieds, la couronne d'épines Et le flan. Oui. Voilà, le flan. Alors, il faut s'imaginer que nous sommes, avec le recul, j'allais dire habitués, nous avons été confrontés aux documents historiques, etc., sur les stigmatisés au cours du temps, au cours de l'histoire. Mais là, à la fin du Moyen-Âge, c'est des situations tout à fait presque nouvelles, si l'on peut dire.
Bien sûr.
Complètement nouvelles. Et l'Église n'a pas encore, je dirais, forgé de concepts, de vocables théologiques suffisants pour appréhender une telle réalité. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que c'est incroyable quand même.
Ah oui, tiens, j'aurais dû chercher l'étymologie du mot stigmate, parce que finalement, oui, je chercherai ça. Et donc, est-ce qu'il y a actuellement des stigmatisés ?
Alors ça, c'est une question difficile. Oui, alors ouais. Je réponds oui, priori, oui, 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 a priori, oui. Il y en a certainement plus qu'on ne pense.
Ah bon ?
Oui, plus qu'on ne pense. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y ait pléthore de stigmatisés.
Oui, 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 bien
hein.
sûr.
Mais oui, oui, il y en a plus qu'on ne pense. Et je vais vous dire, c'est très difficile de chiffrer. Et vous avez notamment des personnes qui vivent cloîtrées dans des communautés contemplatives qui portent certainement les stigmates. Mais là, le but, c'est évidemment de ne pas approcher ces personnes, de les laisser en paix.
Bien sûr.
Et donc, on ne peut pas savoir.
Est-ce qu'il y en a vraiment plus ? Ou alors, c'est comme les EMI dont nous parlions l'autre jour, enfin, les semaines précédentes. On en parle un petit peu plus, donc on le sait. L'information circule à travers le monde, comme ce n'était pas le cas auparavant, en fait.
Oui. Non, là, les cas de stigmatisation, c'est vraiment quelque chose, c'est un phénomène vraiment rare. On estime qu'à travers les siècles, on est à peu près à un peu plus de 300 personnes stigmatisées. Voyez.
Ah oui, effectivement.
Mais 300 cas sérieux, hein, quand même.
Oui,
hein.
Oui.
300
ah, oui,
cas sérieux, donc depuis un peu plus de 2000 ans. Quoi.
On comprend, avec toutes ces souffrances que le Christ a portées, qu'il en choisit certains. Très bien. Bon, merci beaucoup, Patrick.
Merci.
Nous allons continuer la semaine prochaine.
Voilà.
Nous terminerons... avant l'été, voilà, sur les stigmates. Et puis la bilocation, parce que dans certains cas, il y a une corrélation entre les deux. Merci beaucoup, chers auditeurs. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Allez-vous.